Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, on termine cette matinée ensemble. Peut-être vous êtes déjà à table, mais écoutez, je vous souhaite tout simplement bon appétit et puis la prudence si vous êtes en voiture et que vous partez pour aller déjeuner. Merci de votre fidélité. Après ce moment de prière et de recueillement avec l'Angélus, eh bien on se retrouve pour Présence Midi. Dans quelques instants, on va parler de méthanisation agricole grâce à Benoît Guillard. Et aujourd'hui, il va nous faire visiter une installation qui se trouve à côté de Tarbes, à Ibos, donc dans sa chronique. Et puis Miss Grand-mère, ben oui, on va partir à Auch. On va aller avec Maude Perrault, qui est infirmière en EHPAD. Elle est à l'initiatrice de passionnée de ce concours national de Miss Grand-mère. Elle organise seule cet événement sur son temps libre. Elle est animée par un profond attachement aux personnes âgées. L'objectif est de mettre à l'honneur la coiffure et la personne âgée et de la revaloriser dans son estime de soi. Donc nous irons faire un petit tour dans cet bel établissement qui se trouve donc dans le GRC, qui s'appelle La Roseraie. Et puis, s'il y a un jour, un livre, un auteur, comme chaque semaine, on retrouvera Diego Arabal et Philippe Loni, et on parlera aujourd'hui d'art et particulièrement de peinture. Alors, que vient faire la peinture dans la littérature? Eh bien, vous le saurez si, bien sûr, vous nous faites le grand plaisir de rester à notre compagnie. Mais pour l'heure, on va retrouver nos étudiants de l'école de journalisme de Toulouse pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi.
Un départ qui rebat les cartes en Haute-Garonne. Élu maire de Montbéton, Michel Houël quitte immédiatement la présidence du département pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats. Une transition s'ouvre avec l'élection imminente d'un nouveau président. Toujours en Haute-Garonne à propos des municipales, victoire sous tension à Tournefeuille. Un résultat au bout du suspense est déjà contesté. Frédéric Parr l'emporte d'une seule voix face à Laurent Soulier, mais des irrégularités pointées pourraient conduire à un nouveau scrutin. À Verfeil-sur-Seille, un maire gagne d'une voix pour finalement démissionner. Le maire Didier Chardonnay et son équipe jettent l'éponge après des contestations sur les bulletins. L'affaire est désormais entre les mains de la justice administrative. Une série noire sur les routes du Gers. Deux morts en quelques jours et un nouvel accident grave à Auch. Une conductrice est héliportée en urgence tandis que les autorités tirent la sonnette d'alarme face au comportement à risque. Dans le Lot, l'innovation est servie du tourisme. Le département lance une plateforme ouverte à tous pour analyser la fréquentation touristique et aider les décideurs à mieux anticiper. Une première en France qui pourrait faire école. Et puis un match de foot à Toulouse dans l'espace. Le TFC et la Cité de l'Espace promettent une expérience immersive inédite au Stadium le 12 avril lors du match face à Lille. Décors spatiaux et maillots spéciaux sont attendus.
Allez, le retour de l'actualité, ce sera dans quelques minutes à 12h30 avec Kevin Nouveau de l'école de journalisme de Toulouse. Et puis bien sûr à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. On va parler de méthanisation tout de suite avec Benoît Guillard qui nous invite à aller visiter une installation à côté de Tarbes dans la commune d'Ibos.
Présence à Sévrac-le-Château, 102.3.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, je suis à Ibos, à côté de Tarbes. Et je viens revoir Sophie que j'avais rencontrée il y a une dizaine de mois pour pour nous parler de la méthanisation en agriculture. Et si je reviens voir Sophie, c'est parce que je porte actuellement dans les prochaines émissions toute une réflexion autour du dialogue pour décarboner nos territoires. Et donc, j'essaie d'aller à la rencontre de solutions qui sont à la fois locales, concrètes, qui sont créatrices de valeur et qui ont une démarche vraie de dialogue. De sobriété, mais aussi de co-bénéfices, en tout cas de bénéfices partagés sur le territoire. Voilà. Et je n'ai pas quitté de vue Sophie pendant quelques mois. Et puis donc, Sophie aujourd'hui a des idées nouvelles pour faire avancer ce beau projet qui était le projet de méthanisation agricole sur le territoire. Et donc, c'est pour ça que je reviens voir Sophie. Donc Sophie, bonjour et merci de nous recevoir.
Bonjour, merci. Merci de ta visite, Benoît.
Sophie, juste nous redonner un petit peu de mémoire sur Ecogaz. Qui est Ecogaz et ce qu'on y fait?
Alors Ecogaz, c'est une société coopérative dont le premier, qui a été créée en 2019 et dont le premier objectif était de faire connaître aux gens du territoire cette nouvelle production agricole qu'est le biogaz et qui peut être utilisée sur nos territoires dans une idée d'économie locale et surtout d'économie circulaire, avec en plus la possibilité d'utiliser donc le biogaz pour alimenter nos véhicules. Et l'idée, c'était de dire le biogaz, nouvelle production agricole de la vache au camion.
Alors, Sophie, vous m'aviez dit à l'époque que la transition énergétique, notamment permise par cette structure, elle ne peut pas se faire sans les agriculteurs, par nature, mais aussi elle ne peut pas se faire sans les citoyens. C'est un peu l'idée que vous avez développée depuis quelques mois?
Oui, et je dirais qu'on la développe de plus en plus. Pourquoi? Parce que la méthanisation est une technologie qui nécessite de gros investissements et que lorsqu'on s'adresse aux banques, aux fonds d'investissement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, notre système bancaire finance principalement les gens qui ont des projets, mais surtout des gens qui ont de l'argent. Donc cet argent n'appartient pas aujourd'hui, je dirais, à la grande majorité des agriculteurs du territoire qui ont eu des années dernières qui ont été difficiles. Et du coup, et en même temps, le biogaz, il est destiné à tout le monde. On en a tous besoin. On en a tous besoin pour alimenter nos véhicules, pour chauffer nos maisons. Il est intéressant d'avoir un gaz local. C'est une économie sur nos territoires avec des compétences de notre territoire. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de se mettre autour de la table pour participer et pour développer ces projets.
Donc, du coup, effectivement, là, l'idée, c'est d'avoir une énergie qui est produite sur place, hein, en fait, ici, hein, c'est bien ça. À partir de ce que nous avons et ce que vont les agriculteurs. Et c'est surtout pour ce territoire, c'est ça l'idée. Et donc, derrière... en termes notamment financiers. Sophie, vous m'avez parlé, alors c'est un mot un peu technique, excusez-moi chers auditeurs, mais elle va nous expliquer ça, Sophie, un fonds citoyen. Comment on peut faire le lien entre le financement de ce projet et les fonds citoyens?
Alors le lien, il est tout fait, puisque quelque part, on a l'obligation d'arriver à mobiliser des fonds pour ces projets. Un projet de méthanisation collectif, c'est environ 8-9 millions d'euros. Un certain nombre de moyens sont apportés par les banques, mais derrière, il faut apporter ce que les banques nomment des fonds propres. C'est-à-dire que sur un projet de 8-9 millions, eh ben, il faut qu'on trouve entre 500 000 et 1 million d'euros. Voilà, donc c'est de l'argent qui va permettre de faire émerger donc ces projets, ces unités de méthanisation. 1,5 million, ça permet d'en mobiliser 5 ou 6 à côté. Et ce 1,5 million, il va permettre de produire de l'énergie qui rend autonome le territoire en méthanisation, en gaz. Mais ça permet aussi de maintenir une petite agriculture. C'est-à-dire que les gros agriculteurs qui ont des moyens, ils n'ont pas besoin de nous aujourd'hui. Ils s'arrangent directement avec les banques. Par contre, Ecogaz a été créé pour justement impliquer dans des projets de méthanisation des agriculteurs qui tout seuls n'auraient jamais la possibilité de le faire. Or, ces petites exploitations, elles constituent aujourd'hui la majorité de nos territoires. La méthanisation va leur apporter des revenus nouveaux, donc une diversification de leurs revenus. va leur permettre de réduire de manière extrêmement importante les intrants qu'ils vont amener au sol, puisque après la méthanisation, on récupère ce qu'on appelle des digestats qui ont la valeur d'engrais qu'on maîtrise bien et qui vont remplacer les intrants minéraux qu'ils utilisent aujourd'hui. La méthanisation, ça recrée du lien entre tous ces agriculteurs qui, de coup, commencent à réenvisager des travaux agricoles communs et, du coup, des travaux agricoles de meilleure qualité, des meilleurs semis, des passages sur les champs mieux organisés, mieux travaillés. Et pour tous les citoyens, ça rapporte plus d'odeur avec l'épandage des digestats, une énergie locale, la fierté de se dire que sur nos territoires, on consomme, mais aussi on produit. Et la possibilité à tout le monde de participer à ces projets.
Alors, je me souviens très bien, Sophie, quand nous étions quittés au mois d'avril 2025, la conclusion que j'avais pu faire, c'était de dire que finalement, les citoyens ont une possibilité de soutenir l'agriculture, entre guillemets, en finançant et en consommant l'énergie qui est produite ici. Et là, en fait, ce que vous nous redites à nouveau, c'est que un financement de type fonds citoyen, c'est aussi de pouvoir localement maîtriser ce développement, impliquer les habitants. Est-ce que c'est aussi une gouvernance partagée par rapport à ce projet-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une parole portée, écoutée dans le projet et son évolution ?
Oui, moi je suis très attachée au fait qu'à partir du moment où on travaille à une action, à partir du moment où on est acteur, on est impliqué et on a droit à la parole. Et dans le cadre justement du fonds citoyen, des méthanisations, le premier projet donc qui va naître là sur à côté d'Ibos, sur Juillan, il est structuré autour d'une coopérative, une société coopérative agricole. C'est-à-dire que les agriculteurs rentrent dans la coopérative par les volumes qu'ils vont apporter dans l'unité de méthanisation. Mais en termes de gouvernance, c'est la règle est un homme, une voix. Tout le monde a le même droit à la parole. On peut, dans ces coopératives, impliquer aujourd'hui des citoyens qui auront un statut un petit peu différent par le fait qu'ils n'apportent pas des volumes, mais ils seront complètement impliqués dans la structure, comme n'importe quel agriculteur. L'autre possibilité, c'est de travailler, je dirais, de manière encore plus collective et en s'impliquant donc dans la structure Ecogaz qui aujourd'hui lance ce prêt participatif. Et bien sûr que ceux qui participeront à ce prêt auront une place dans cette structure qui est également une structure coopérative avec un accès à l'information, avec un accès à la manière dont sont gérées les choses, avec un accès à ce qui se passe dans la vie de cette coopérative, la possibilité de donner des idées, de lancer des initiatives, de faire du lien, de rencontrer les agriculteurs, d'éventuellement acheter des produits, etc. quoi. Après, c'est une vie entre hommes et femmes de bonne volonté qui ont envie de faire des choses en commun sur leur territoire.
Oui, en fait, c'est l'idée d'avoir une participation dans un projet de territoire sérieux, dans lequel chacun peut avoir sa place, du coup, hein, dans le contexte, et puis ensuite utile à la fois pour le territoire et puis pour les générations futures, puisque on parle d'agriculture, on parle d'énergie, on parle aussi d'alimentation, du coup, hein, parce que tout est lié, et donc inévitablement, la question qui est proposée, le projet là, la proposition, c'est de porter ce projet collectivement et vraiment le porter. Hein, c'est un petit peu ce que vous dites. Derrière, bien sûr, je sais que beaucoup, à chaque fois qu'on parle de méthanisation, il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, et de débats autour de ce sujet de la méthanisation. Il y a des peurs, il y a besoin de transparence, il y a besoin de dialogue. Voilà. Comment on peut répondre à ces peurs, justement, Sophie ?
Alors, je dirais que de notre côté, on essaye de communiquer le plus possible. Alors, communiquer, c'est pas faire du marketing ou dire des belles choses, mais on essaye de... Quand les gens ont des questions, ils viennent nous voir... Et on essaye d'y répondre de la manière la plus technique possible. On essaye d'éviter aussi tous ces problèmes. À la base, on est, nous, des techniciens. On n'est pas des communicants, on n'est pas des politiques, on n'est pas des financiers. On est des techniciens. On essaie d'accompagner le développement des unités de méthanisation de la manière la plus respectueuse possible. Respectueuse des règles, respectueuse des sites, respectueuse de paysages. On a nullement en nous l'idée de tricher sur telle ou telle règle. On part des règlements tels qu'ils sont, on les applique, on discute avec l'administration, on discute avec l'ensemble des partenaires et on essaye de faire les choses du mieux qu'il est possible de le faire aujourd'hui, quoi. Et je pense que justement Ecogaz est aussi garant de tout ça. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'à terme, il est dans l'intérêt de personne de polluer les nappes, de polluer la terre, de rouler sur les routes, etc. etc. Donc nous, vraiment, on se porte garant du respect de ce cadre. Et on est en mesure d'expliquer ce qu'on fait, quelles sont les règles et comment on les interprète et qu'est-ce qu'on fait face à ces règles, quoi.
Oui, finalement, c'est surtout de l'information et de la transparence autour de tous ces sujets qui rassurent. Et c'est ce que vous faites.
Hein. Oui. Et on conçoit les projets dans le respect de tout cela et dans le respect aussi des hommes et des femmes qui demain travailleront sur ces sites ou alimenteront ces sites, quoi.
Alors, j'ai une petite question sur qui peut participer, puisqu'on parle de fonds participatifs. Qui peut participer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à qui ça s'adresse? Est-ce qu'il y a des détails où c'est peut-être encore trop tôt pour savoir effectivement les montants et puis les types d'engagement qui sont ouverts aux citoyens?
Alors, tout le monde peut participer. On va mettre en place, je dirais, deux manières de participer, en sachant que la dernière émission avait déjà donné l'occasion à deux, trois personnes de m'appeler. Hein, je les ai pas recontactées, mais j'ai dans un coin, sur un cahier, leur nom et leurs coordonnées. Et dès que tout sera en place, je reprendrai contact avec elles. Donc il y a possibilité de participer donc à ce projet, je dirais, de deux formes. La première, si des gens souhaitent faire des dons, nous accueillerons avec grand plaisir ces dons. Nous ferons un papier pour justifier qu'on a reçu cet argent, d'où elle vient. Ils seront enregistrés, je dirais, de notre côté. Et puis, eux également, on leur transmettra, on leur donnera un document qui expliquera clairement de quelle manière ils ont participé au projet. C'est-à-dire, non pas qu'ils aient apporté 10 ou 100 euros, mais ces 100 euros, qu'est-ce qu'ils ont permis d'apporter au projet en termes de quantité de gaz ou en termes de déplacement des véhicules ou en termes de essayer d'illustrer cet apport qui peut paraître peu important pour certains, mais qui, à l'échelle du projet, permettra de réaliser le projet.
Alors, je précise bien, c'est ouvert à tous, hein ?
Oui, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. La deuxième manière de participer, ça va être donc de prêter de l'argent à la coopérative Ecogaz. On est en train d'ouvrir un fonds citoyen, donc qui va permettre de mobiliser l'épargne des citoyens et de rémunérer cette épargne à la hauteur sur la même valeur que ce que les banques aujourd'hui prêtent. D'accord. Voilà. D'accord. Et avec chaque personne, on essaiera d'être au mieux respectueux des souhaits des gens sur la durée de prêt. De cet argent et on fera également les choses dans le respect des normes, donc avec une reconnaissance de dette, une déclaration du montant des intérêts et puis toutes les formalités aujourd'hui à la fois obligatoires vis-à-vis de notre État mais également nécessaires pour tout un chacun pour savoir quel est l'impact de l'argent qu'il prête. Quand est-ce qu'il pourra le récupérer, hein? Donc ça sera l'objet d'une discussion ensemble. Et quel va être l'impact de ce prêt à l'échelle du projet et plus tard de la production de biogaz sur le territoire.
Alors, dernière question sera la dernière, parce que le temps passe, le temps avance, Sophie, puisque c'est un vrai appel hein, que vous faites autour de cet engagement. Et donc, simplement un contact, une adresse, quelque part, pour pouvoir s'informer, voire même s'impliquer.
Bah, tout simplement s'adresser à Ecogaz. Donc, l'adresse mail d'Ecogaz, c'est contact@ecogaz.com. Ecogaz s'écrit donc E-C-O-G-A-Z. O-W-G-A-Z, hein, le gaz des vaches. Notre adresse est 12 rue d'Estobé à Ibos. On est dans la zone artisanale d'Ibos, donc là vous pouvez venir et on prendra le temps d'en discuter. Voilà.
Alors, chers auditeurs, on est à la fin de cette émission. D'abord, merci infiniment, Sophie, de m'avoir reçu, de pouvoir aussi évoquer ce projet que je trouve beau, et cette manière de financer aussi, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les citoyens, nous avons besoin un peu de joie et d'espérance, et donc d'investir du temps, de l'argent dans des choses qui nous portent à cœur, qui portent sens aussi sur le futur. Et je trouve que votre proposition, cette proposition de fonds participatifs citoyens, c'est aussi une manière de dire que notre territoire nous tient à cœur. En tout cas, merci beaucoup Sophie, et puis à bientôt, au revoir.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
La chanteuse Patricia Cass sur Présence avec Mademoiselle Chante le Blues.
Radio Présence à Pamiers, 100.2.
Maud Perrault, infirmière en EHPAD et l'initiatrice passionnée de ce concours national qui s'appelle Miss Grand-Mère. Elle organise seule cet événement sur son temps libre, animé par son profond attachement aux personnes âgées. L'objectif est de mettre à l'honneur la coiffure et la personne âgée et de revaloriser l'estime de soi des résidents de l'EHPAD. Ce projet apporte du rêve, du bien-être et du réconfort tout en favorisant les liens intergénérationnels. À l'EHPAD de la Roseraie, à Auch, c'est Yvonne Gervaise, qui a 102 ans, qui a gagné le concours et qui représentera l'établissement pour le grand concours départemental. Nous écoutons Annie, qui est l'animatrice, et Yvonne elle-même. Elles sont toutes les deux au micro de Pauline Cazier.
Du coup, quand j'ai vu ce concours, j'ai demandé aux résidentes qui voulaient participer. Et du coup, elles étaient quatre, dont Yvonne. Il y avait Yvonne, 102 ans, Maryse, 95 ans, Lucienne, 92 ans, et Josette, 94 ans.
D'accord. Donc, comment ça s'est passé, la préparation?
Alors, du coup, on les a préparés. On a fait un vote sur Google Form, interne. C'était un vote interne. Donc, à l'EHPAD, avec les familles et tout. Et du coup, le lundi 9 mars, nous avons fait le dépouillement avec les familles, résidents et salariés. Et du coup, c'est Yvonne qui a été sélectionnée pour participer au concours national de Miss Grand-Mère 2026.
Alors, pour préparer ça, il y a eu des coiffeurs, il y a eu, comment ça
oui,
s'est passé?
Oui, il y a eu, donc du coup, c'était MV Formation Espace Coiffure de Mireille Ménian, en fait. Donc, c'est les filles qui ont coiffé, qui ont maquillé. On est allé au salon de coiffure avec les résidentes et toute l'après-midi, elles ont été chouchoutées, maquillées. Donc, voilà. Ça a été un bonheur pour elles.
Donc Yvonne, je vais lui passer la parole, mais donc Yvonne va aller en régional.
Alors Yvonne va aller en régional, mais elle va pas partir.
Oui.
Elle va rester à l'EHPAD. C'est juste le vote. Donc on a créé. Il y a une photo qui a été prise d'avant et après d'Yvonne. Et du coup, Maud, l'infirmière qui a créé ce concours, a mis un site pour pouvoir voter pour toutes les résidents qui se sont présentés de tout. Donc là, c'est le concours départemental et après régional.
Alors départemental, ça veut dire qu'il y a eu combien d'établissements qui ont participé?
Alors là, je crois qu'il y en a 17, oui. Mais pas dans le Gers. Hein. Le Gers, on est les seuls. Hein.
Ah, très bien.
Donc du coup, il y a d'autres départements et là, je crois qu'il y en a 17 et donc on espère qu'ils vont... À gagner.
Et les critères de choix, quels étaient-ils?
Pour choisir.
Oui, oui, oui.
Bon, après, Yvonne, elle me suit partout, donc.
Ah oui. Moi, j'aime beaucoup Annie.
Alors, je vais vous passer la parole, Yvonne. Je vais donner votre âge. Vous avez 102 ans. Vous y voyez très bien. Vous entendez très bien. Vous êtes en pleine forme.
En pleine forme tout le temps.
Vous avez le moral
à 100.
Alors, quand Annie vous a parlé de ce concours, vous avez été volontaire. C'était quoi vos envies?
On faisait partie d'un petit groupe. Hein? Voilà, c'est tout. Mais c'est pas, on s'est pas présenté, on nous a piqué.
Piqué.
On nous a piqué à droite, à gauche. Et puis celle qui voulait.
Oui. Ouais. Et donc la préparation, vous avez été chouchoutée, coiffure, maquillage.
Oui, mais enfin bon, vous savez, ça dure pas longtemps. Hein. Mm-hmm. Faut pas que ça dure longtemps parce que on n'est pas très patiente.
Donc là, qu'est-ce que vous avez gagné de ce concours? Vous avez eu sans doute un bouquet. Vous avez eu une...
Ah oui, j'ai un bouquet, j'ai une photo, j'ai. J'ai encore le bouquet, il est dans l'eau, il fleurit.
Et j'imagine que votre famille a dû être très très fière de vous.
Oui, mais enfin, vous savez, ma famille est dispersée en France. Mm-hmm.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Est-ce que vous avez toujours vécu dans le Gers? Racontez-nous un petit peu.
Mon mari est un militaire, un pilote d'un avion de chasse pendant la guerre. Il était partout avec son avion. Mmh. Enfin, il suivait son groupe. Et c'est pas que lui.
Et vous l'avez suivi sur ces différents...
Moi, j'ai suivi. Et j'ai eu quatre enfants.
Quatre enfants?
Un garçon et trois filles.
Donc, est-ce que vous avez déjà vous avez travaillé pendant votre vie?
Travaillé pour la France.
Mmh. Donc là, vous êtes dans le département, mais quels sont les autres départements où vous avez vécu?
J'étais dans toute la France J'étais en Pologne, à l'étranger aussi, quand on m'a envoyé là où il fallait aller. Et j'ai toujours rapporté ce qu'on m'a demandé. Mmh.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez faire
Moi, j'aime tout.
C'est-à-dire tout, c'est très large, tout.
Mais c'est nature. Écoutez, si j'aime pas, j'y vais pas. Et comme j'aime beaucoup de choses, je suis obligée de courir. Ce matin, on était au marché avec Annie. Mais j'y étais, hein?
Oui.
Oh! Mais des activités, est-ce que vous aimez faire, je sais pas, du dessin, de lire?
Écoutez, ce qu'on me demande, je vous le dirai. Mm-hmm. En fonction de ce que vous me demandez.
Vous n'êtes pas difficile. En tout cas, moi, je trouve que vous êtes vraiment très souriante.
Écoutez, je suis franche, nature. Vous voyez, j'ai aucun maquillage, j'ai rien, jamais.
C'est aussi pour ça que vous avez gagné, c'est votre joie de vivre, hein, ça a dû jouer.
Ma joie de vivre, c'est de vivre. Mm-hmm. Et de m'intéresser à beaucoup de choses.
Et vous, justement, est-ce que vous intéressez à l'actualité?
Oh, bien sûr.
Vous lisez le journal, vous regardez la télévision?
Oui.
Oui. Et vous gardez des souvenirs de vos voyages? Vous parlez de la Pologne, est-ce que vous avez encore des souvenirs?
Bien sûr que je parle.
Oui.
Oui. On m'a envoyé en Pologne, c'est pas moi qui suis là. De mon cœur, de ma joie, de ma volonté, non. On m'a envoyé. J'avais une mission, je l'ai remplie. Et maintenant, fini.
Donc, on vous souhaite bonne chance pour la suite du concours.
Oui. Ouais, je vais voir si je peux le faire.
Alors, je repasse la parole à Annie pour terminer. Quand est-ce qu'aura lieu la finale régionale, c'est ça?
Alors, d'abord, on part à un départemental qui se finit le 26, là.
26 mars.
Voilà, ouais. 26 mars. Et après, je...
On sait pas trop.
Au mois d'avril, c'est du 10 avril. Voilà, c'est toute la semaine, donc c'est régional. Donc là, on espère qu'il va falloir pousser tout le monde pour voter Yvonne. Et après, un national, mais qui finit, ouais, fin avril, je pense. J'ai pas les dates exactes sur moi, donc en tête. Donc voilà, mais on espère que Yvonne sera la gagnante.
On dépend de la France. On n'a pas un vouloir personnel.
Voilà, à l'instant, vous avez écouté Annie, qui est animatrice dans l'EHPAD de la Roseraie à Auch, et puis Yvonne, 102 ans, qui a donc gagné ce concours et qui représentera donc son établissement dans le grand concours départemental de Miss Grand-Mère. Un grand merci à Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Présence à Pau, 96.
Et ça, c'est une belle initiative. Allez, tout de suite, on va retrouver l'information à la mi-journée. Il est 12h passé de 33 minutes. On est très en retard et on retrouve Kevin Nouveau pour le Flash Régional. Kevin qui est élève à l'école de journalisme de Toulouse. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous. Changement en vue à la tête du Tarn-et-Garonne. Élu maire de Montbéton dès le premier tour, Michel Weil quitte ses fonctions de président du département. Une décision prise immédiatement pour se conformer à la loi sur le non-cumul des mandats. Ce départ ouvre une période de transition. Un nouveau président devra être élu dans les prochains jours pour assurer la continuité de l'institution. Et suspense total après les municipales en Haute-Garonne. À Tournefeuille, une seule voix sépare les deux candidats au second tour. Le maire sortant Frédéric Parr l'emporte d'extrême justesse face à Laurent Soulier. Mais plusieurs irrégularités sont dénoncées. Des urnes ont donc été placées sous scellé. Un recours est envisagé. Par conséquent, un nouveau vote n'est pas exclu. Plus inédit encore, dans une commune du Tarn-et-Garonne à Verfaille-sur-Seille, une élection remportée d'une voix tourne au blocage. Le maire Didier Chardonnet et son équipe ont donc démissionné quelques jours après leur victoire. En cause, des bulletins contestés et une installation du conseil municipal ratée. Le dossier est désormais entre les mains du tribunal administratif. Nouvelle alerte sur les routes du Gers. Plusieurs accidents graves ont fait deux morts ces derniers jours. À Auch, un nouveau drame s'est produit sur la rocade. Une conductrice a été héliportée en urgence vers le CHU de Purpan. Le préfet appelle donc à la plus grande vigilance. Vitesse, alcool, téléphone, les comportements à risque restent en cause. Les contrôles vont être renforcés. Et une première en France, l'Aude Tourisme lance une plateforme d'analyse accessible à tous. Objectif, partager gratuitement des données précises sur la fréquentation et l'économie touristique du département. Un outil destiné aux professionnels comme aux élus. Il doit faciliter la prise de décision dans un secteur soumis à de fortes variations. Le département se positionne ainsi comme un pilote en matière d'innovation touristique. Quand le football rencontre l'espace, le TFC et la Cité de l'Espace s'associent pour un match-événement. Le 12 avril, au Stadium de Toulouse, la réception du LOSC Lille se transformera en expérience immersive. Animations, décors spatiaux et maillots spéciaux sont prévus. L'idée est de faire vivre aux supporters une rencontre hors du commun.
Allez, merci beaucoup Kevin Nouveau qui est école à l'ISJT, l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et le retour de l'actualité, eh bien, ce sera dans quelques minutes à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Comme chaque mercredi, on va prendre la direction de la bibliothèque avec un jour un livre en auteur et on parle d'art aujourd'hui avec l'invité de Philippe Donny et Diego Rabal.
Présence à Mirande 104.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe Noni.
Allez, aujourd'hui Diego Arabal, nous partons dans le nord, on va dire le nord-ouest de la France, en Normandie, avec un auteur qui est à la fois peintre et qui a bien des cordes à son arc. Il a écrit un livre dans lequel on trouve ces éléments-là que je vais vous lire. Ce livre est une façon de fêter ce demi-siècle de ma vie consacré à la peinture. Il n'est pas un point final car le chemin infini de la création continue sans cesse dans la recherche du mouvement et de l'équilibre. Une aspiration à la beauté. L'homme qui a écrit ces mots est un artiste qui vit dans le Cotentin. Il a écrit cet ouvrage, 50 ans, l'œuvre peinte, pour laquelle nous le recevons aujourd'hui. Bonjour Laurent Zunino.
Bonjour à vous tous, bonjour.
Bonjour.
Très heureux d'être avec vous.
Et merci Laurent d'avoir accepté notre invitation sur Un jour, un livre, un auteur. Alors, vous avez commencé par la peinture, donc on va retracer un peu de votre carrière avant de parler de votre livre 50 ans, l'œuvre peinte. On peut admirer certaines de vos gouaches sur votre site internet, laurent-zunino.fr. Donc laurent-zunino.fr. laurent-zunino.fr. Question, qu'est-ce qui vous a amené à la peinture? Parce que vous avez commencé très tôt à peindre.
Pour moi, c'est, je veux dire, je suis tombé dedans, dans le ventre de ma mère. Hein. C'est presque ça, quoi. C'est-à-dire que la peinture à l'école maternelle, c'était à l'âge de 4 ans, j'étais ébloui par la couleur. Tout d'abord, tout commence par la couleur, en fait. C'était un éblouissement pour moi. J'ai pas eu une enfance forcément très 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 heureuse, mais ça ne regarde personne. Et c'était une espèce d'éblouissement, il n'y a pas d'autre mot. Et cette couleur, je l'ai projetée à travers ma gouache d'enfant, et j'avais l'impression que j'étais un peu différent des autres enfants parce que j'étais jamais satisfait de ce que je faisais. Donc je voulais recommencer. Et de cette satisfaction naît la création. Voilà, donc ensuite, j'ai continué à peindre. J'ai découvert les grands maîtres de la peinture grâce à mes parents qui m'ont trimballé au musée. Contrairement aux autres petits enfants, ce qui me plaisait, c'était d'aller au musée et pas d'aller jouer aux billes ou au football. C'est bizarre.
C'est particulier, bizarre. Effectivement, quand on est petit, de préférer effectivement la peinture au jeu des billes. Vous avez commencé à peindre donc après très tôt, à partir de l'âge de 18 ans. Donc très très jeune. Donc vous continuez aujourd'hui à vivre de la peinture, donc 50 ans plus tard. Pourquoi avoir décidé maintenant, aujourd'hui, de concevoir un ouvrage qui rassemble et qui parle de votre œuvre? Qu'est-ce qui vous a incité à en venir là?
J'avais envie de mettre un petit peu une forme de réflexion finalement pour un nouveau départ, c'est-à-dire de voir un petit peu la cohérence de mon chemin et finalement de de me regarder sans m'admirer forcément, hein, mais je veux dire de voir un petit peu, de faire le point, voilà, on va dire, de faire le point et pour mieux redémarrer tout neuf. Et il y a beaucoup de thèmes dans ma peinture, donc j'ai voulu les réunir. J'ai fait ce livre qui n'est pas par ordre chronologique, donc qui est par thème, et ensuite pour qu'il y ait une certaine, voilà, pour voir la cohérence ou la non-cohérence de tout ça. Enfin, et bon, fêter ça, quoi. 50 ans de la vie d'un mec, voilà, c'est, voilà, parmi d'autres gens. Bon, ben, moi, c'est la peinture, j'ai voulu marquer le coup.
Alors moi j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs de Radio Présence à aller, je rappelle le nom de votre site internet, Laurent Zunino, laurent-zunino.fr, tiré du 6, Zunino, donc avec un Z.fr, parce qu'on peut y admirer énormément de vos peintures, qui sont, je trouve, particulièrement touchante, que ce soit à la fois des paysages, des personnages. Il y a une lumière. On sent que vous cherchez à capter un événement, un moment, une lumière. Et votre ouvrage, c'est également effectivement ce bilan qu'il fait. Alors, une question par rapport à vos peintures. Quand des auditeurs et des auditrices vont y aller, je suppose qu'il est possible de pouvoir vous achetez des peintures par le biais du site internet.
Oui, tout à fait, oui. On peut me contacter. Après, bon, ben, le mieux, évidemment, c'est de venir dans mon atelier, mais ça va pas être très pratique. J'habite dans un petit village.
Dans le Cotentin, je rappelle Normandie, voilà, ouais.
Ouais, tout au bout. Mais enfin, bon, ben, rien n'est jamais exclu, mais évidemment, on peut me voir par internet. On peut me voir aussi dans, là, demain, je pars à Lyon déposer des œuvres. On peut me voir en dépôt. Donc, on peut me voir en permanence à la galerie Jean-Louis Mandon à Lyon. On peut me voir dans mes expositions fréquentes, hein. Donc,
Jean-Louis Mandon à Lyon, elle est située où?
Elle est située rue Vaubecourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon.
Rue Vaubecourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon.
Ouais, entre Lyon-Perrache et la place Bellecour.
Entre Lyon-Perrache et la place Bellecour.
Ouais, vraiment en plein centre de Lyon. Donc là, c'est pas une exposition personnelle pour l'instant, mais on peut me voir aussi fréquemment. Donc vous allez dans Actualité sur mon site et vous voyez mes expositions très fréquentes. Voilà.
Alors, sur votre pictural, il y a un détail, enfin il y a une rencontre que vous faites en 1981. Vous écrivez au chanteur Léo Ferré, alors on ne présente plus hein, Léo Ferré.
On va dire au poète. Voilà. Je préfère.
Et voilà, avec votre ami poète, avec qui vous allez rester ami donc jusqu'à sa mort en 1993. Est-ce que cette amitié avec Léo Ferré, est-ce qu'elle a eu une influence sur votre œuvre picturale?
Non. Disons que moi, Léo Ferré, c'est un amour profond de son œuvre, mais on va dire qu'on avait, on exprime la même chose, mais seulement j'ai eu la chance, justement, de pas être influencé parce qu'on n'a pas le même art. Lui, il manie les mots et la musique, et moi la couleur et la peinture. Donc, mais on se reconnaît, c'est-à-dire tout ce que chante, ou dit ou écrit Léo. Moi, je le ressens profondément au fond de mes tripes et je l'exprime d'une autre façon à travers la peinture.
Alors, voilà, en plus,
c'est une reconnaissance.
C'est une reconnaissance. Et puis, je précise que, alors, c'est pas neutre, hein, vous avez réalisé les dessins du roman de Léo Ferré, donc intitulé Les Noces de Londres, qui est publié donc aux éditions La Mémoire et la Mer, hein, dans la collection Les Étoiles. Donc, d'abord, bravo. Et puis ensuite, racontez-nous comment cette aventure littéraire s'est réalisée avec le chanteur Léo Ferré qui écrit ce livre. Et puis, alors, vous êtes amené à faire des dessins du roman.
Alors, Les Noces de Londres, c'est un long texte fleuve qu'a écrit Léo Ferré dans les années 50, et où il se trouvait en Angleterre, à Londres. Et ce texte, il s'en est servi, il a puisé toute sa vie, il a pris des extraits de sa poésie pour écrire des chansons. Voilà. Et il n'a jamais été édité, en fait, de son vivant, complètement. Et c'est donc un inédit et Mathieu Ferré, le fils de Léo, qui est également l'éditeur de la Mémoire et la Mer, a décidé de le publier, de faire appel à moi. Donc c'est Mathieu Ferré qui a fait appel à moi pour illustrer, dessiner cette œuvre littéraire. Voilà. Donc je me suis penché là-dedans et j'ai fait ça à la plume, à l'encre de Chine, Et c'est un texte admirable qu'on peut trouver effectivement aux éditions La Mémoire et la Mer, Les Noces de Londres.
Et qu'on peut encore trouver voilà aujourd'hui donc et je le précise illustré par vous donc félicitations parce que bon derrière ces deux talents effectivement qui se retrouvent hein, c'est pour ça que moi j'incite à nouveau donc les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent je le redonne à aller sur votre site donc laurent-zunino.fr hein, donc laurent-du6 Zunino donc avec un z.fr où on a vraiment cette œuvre là 50 ans l'œuvre peinte pour les auditrices et les auditeurs qui veulent nous écouter par rapport à votre livre comment ils font pour se le procurer
alors donc chez moi donc par correspondance alors le problème c'est que c'est il y a toujours des frais de correspondance et c'est des frais de postage toujours plus chers ou alors je suis dans quelques petites librairies dans le Cotentin, donc je vais citer la librairie de la Chaloupe qui se trouve à Saint-Vallaougue, donc vous pouvez me voilà, mais le plus simple c'est de me le commander.
Alors on peut commander comment? Dites-nous comment les auditrices et les auditeurs peuvent vous avez une adresse courriel ou
Alors j'ai une adresse courriel, mais j'ai aussi une adresse postale qui est le 12 chemin de la Planque.
La planque, donc, voilà, la planque PLANQE.
Bien planqué, l'artiste. Bien tranquille. 50250, Varengebeek, Varengebeek.
D'accord. Voilà. Et vous avez une adresse courriel également,
laurentzunino@yahoo.fr. Mais tout ça, vous l'avez dans les contacts sur mon site. Hein.
D'accord.
Il n'y a pas tellement de problèmes. Si on veut me trouver, on peut me trouver.
Bon, d'accord. Si on veut vous trouver, on peut
vous
trouver.
Et vous apparaissez très vite sur leur moteur de recherche.
Voilà. Parce que Diego Arabal regarde, effectivement, sur le moteur de recherche, là, on a les ordinateurs devant nous, effectivement, et on voit qu'on vous trouve extrêmement facilement. Est-ce que vous avez parce que j'ai vu également sur votre site que vous faites des expos de peinture. Est-ce que vous avez des expos de peinture qui sont prévues sur l'année 2026 à compter de début avril et puis jusqu'à la fin de l'année?
Alors, je viens de terminer une exposition à Paris, donc là on n'en parle plus, elle est finie. Ma prochaine exposition aura lieu au Mont-Saint-Michel en août. Du 8 au 14 août.
D'accord.
Donc 2026. Cette exposition aura lieu avec ma compagne Valérie Ténès, qui est aussi une très bonne peintre. Voilà. 8 au 14 août. Donc c'est en face du Mont-Saint-Michel, à Saint-Jean-de-Thomas.
Saint-Jean-de-Thomas, en face du Mont-Saint-Michel.
Voilà. Donc, j'invite tout le monde à venir dans ce beau département voir le Mont-Saint-Michel. Ça, c'est un peu connu, hein,
oui.
Le Mont-Saint-Michel.
Ça va. Je pense que les gens devraient s'y retrouver, ça.
Voilà, donc... ce beau département. Donc, dans ce beau département, je le rappelle pour certains ou certaines, n'est pas breton, mais normand.
Ah oui, il faut le préciser parce que c'est quand même une pomme de discorde. Il est à la limite entre les deux, mais il est en Normandie, ce Mont-Saint-Michel.
Le département de la Manche. Voilà, donc pas loin de chez moi, donc finalement. Et j'espère faire une belle exposition donc sur ce beau Mont-Saint-Michel, enfin en face, très belle région, donc pourquoi pas venir me saluer après à l'atelier. Et après, j'aurai une exposition donc à l'abbaye de Thésée, qui se trouve tout près de Lyon encore, avec Madame Sylvie Moine et également Valérie Ténès sur le thème de l'enfance. Voilà.
Vous faites des expos à thème, expliquez-nous ça.
Alors là, c'était, on m'a demandé, comme je peins beaucoup l'enfance aussi, on m'a demandé, ça se trouve que ça collait, j'ai de quoi. Donc voilà. J'expose avec ces deux jeunes femmes sur l'enfance.
Alors, vous avez une particularité également dont je voulais parler avec vous, Laurent Zunino, parce que vous savez, Radio Présence, c'est la radio donc des sanctuaires à Lourdes. Vous avez une particularité depuis que vous peignez, depuis une cinquantaine d'années, chaque année, pour le carême, vous faites un tableau spécifique du Christ.
Voilà.
Donc, ça veut dire que vous avez fait 50 tableaux. Pour la semaine sainte.
J'ai commencé un peu plus, j'ai commencé en l'an 2000 à faire ça.
Ah, l'an 2000, voilà. D'accord, ok. Donc 26 ans que vous faites ça, donc 26 ans, donc vous avez fait 26 tableaux. Qu'est-ce qui vous a incité en l'an 2000, parce que c'est le nouveau millénaire, mais a décidé à un moment donné, chaque année, à la même date, à la même, au moment de la semaine de Sainte, de faire ce tableau.
C'est très dur.
C'est une mauvaise question ou pas?
Vous êtes loin de vous, excellente, elle est excellente.
C'est une question, c'est une question très intime, on va dire. Une question très intime, mais je vais répondre, je vais être un peu détourner un peu la réponse. C'est-à-dire que pour moi, la peinture, c'est un peu comme le mystère de la foi. Voilà.
D'accord.
Alors, voilà, j'ai répondu.
Merci d'être
j'ai
venu,
J'ai répondu brièvement. Non, mais il y a plusieurs choses. Bon, c'est le Christ. Après, chacun est libre. Voilà,
donc, de croire ou pas, voilà, tout à fait.
Voilà. Et aussi rendre hommage à tous les grands peintres de la peinture. C'est-à-dire que chaque Christ, chaque année, je pense, soit à Grunewald, soit à Velázquez, soit à Rembrandt, à Caravage, et à Giotto, à Frangelico. Voilà. Et cette crucifixion, à chaque fois, elle est différente. Elle peut être plus apaisée, plus dramatique. C'est toujours de la peinture. Et ce Christ m'a permis, dans mon livre, de réunir tous mes thèmes. C'est-à-dire, chacun de mes thèmes sont séparés. Je ne vais pas dire séparés, sont réunis par cette image de la passion, donc de la passion du Christ.
Bon, voilà, je voulais l'aborder. Je savais que c'était un thème très intime pour vous, mais c'est vrai que quand vous m'en aviez parlé au téléphone pour qu'on prépare cette émission ensemble, c'était quelque chose que j'avais trouvé extrêmement touchant. Ces tableaux que vous avez faits du Christ, vous les avez conservés ou est-ce qu'ils sont à la vente?
Ah non, la plupart, c'est très étonnant parce que la plupart sont partis, sont vendus, et alors pas seulement à des croyants.
D'accord.
C'est très étrange. Il y a des gens athées qui ont acheté un Christ. Par contre, il se trouve aussi, il y en a un que, à ma connaissance, hein, je sais pas tout, qui se trouve dans l'église de Monticello en Corse.
Ah bon?
Qui a été acheté par un de mes mécènes de l'époque, qui n'est plus là, malheureusement, et qui l'a offert à l'église de Monticello en Corse. Alors, moi, j'en sais pas plus, alors c'est ce qu'il m'avait dit, hein.
Bon, ça veut dire qu'il va falloir faire un voyage là-bas, quand même.
Ça veut dire que, voilà, c'est toujours agréable de se retrouver à Monticello, que je connais, hein, c'est un village que je connais, magnifique. Donc, en Balagne, en Corse, je pense qu'on peut voir un Christ peint par Laurent Zunino dans l'église de Monticello.
Bon, ben on lance un appel hein, à tous ceux qui partent en Corse bientôt
en vacances.
C'est
ce qu'on m'a dit. Maintenant, je ne l'ai pas vérifié.
Bon, écoutez, on lance un appel pour que les gens aillent faire une photo, nous l'envoient, et on vous promet que si on a la photo, on vous la fait passer, Laurent Zunino.
Avec un grand bonheur. Avec un grand bonheur.
Ça, voilà. Là-dessus, voilà. Et alors, une question là, sur ce que vous disiez à l'instant sur les tableaux du Christ là, que vous peignez donc, chaque année, donc 26 tableaux qui ont été faits depuis l'an 2000. Vous dites certains l'ont acheté, ils sont non-croyants. C'est-à-dire que les gens vous ont dit, en l'achetant, je suis non-croyant, mais je vous achète quand même le tableau.
Certains, oui.
D'accord.
Oui. Parce que il faut croire que c'est ce qui les intéresse, c'est la peinture, donc l'expression qu'il y a dans ce visage, dans ce visage d'homme, quoi. Parce que le Christ, c'est un homme. Voilà. C'est un homme qui, c'est Dieu, mais c'est un homme. Voilà. C'est bien la base de la religion chrétienne. Donc, ces personnes sont sensibles à l'expression humaine, voilà, à la douleur sur la croix.
Bon, en tous les cas.
Et là, je pense que voilà, on ne peut être que avoir beaucoup de compassion face à ça, à tout ce qui se passe dans le monde, chrétien ou pas chrétien. Je veux dire, je ne pense pas qu'il fasse faire un tableau d'honneur, hein. Et c'est pour ça que je pense que si c'est une grande leçon du christianisme, c'est que là vous me posez des questions là-dessus, mais je veux dire c'est très très personnel, c'est très secret quoi. Et le Christ, je pense que le Christ disait quand tu vas prier, ne t'exhibe pas, reste tout seul dans ta chambre et moi c'est dans mon atelier, voilà. Pour prier.
Vous allez continuer à faire ces tableaux du Christ dans les années qui vont suivre?
J'espère, s'il me prête la vie. là, je suis en plein dedans. Là, le carême a commencé mercredi dernier. Je suis déjà en pleine réflexion de mon support. Qu'est-ce que ça va être? Je pense cette année que ça va être qu'une tête.
D'accord.
Voilà. Une tête penchée, évidemment.
Eh bien, on l'a en avant-première. Hein.
Voilà, mais ça sera peut-être. Je vais peut-être changer d'avis. Donc, vous aurez une fausse avant-première.
Bon, j'aurai une fausse avant-première, mais alors. Bon, en tous les cas, je rappelle le titre de votre ouvrage, Laurent Zunino, 50 ans, l'œuvre peinte, donc qui résume en fait 50 ans de peinture. On peut vous contacter sur votre site laurent-zunino avec un z.fr, laurent-zunino.fr, à la fois pour vous commander, aller voir vos peintures, et vous commander vos peintures, voir aussi les expositions effectivement dont vous nous avez parlé tout à l'heure et dans lesquelles vous allez exposer vos peintures, dont certaines sont à thème, j'ai entendu à Lyon notamment, donc le thème de l'enfance, mais aussi pouvoir commander votre livre. Question, lorsque vous allez faire des expos, vous allez y être, est-ce que vous allez avoir votre livre avec vous?
Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, là absolument. Bon. Absolument. C'est vraiment, c'est quand même un objet important. Bon, et si les personnes justement n'ont pas la possibilité d'acheter une peinture, ils peuvent toujours repartir avec un beau livre qui coûte 50 euros. Bon, c'est déjà une certaine somme. Mais il a 368 pages, il y a 368 reproductions, et 340 pages. Donc c'est un ouvrage qui est assez conséquent. Voilà, qui représente bien mon œuvre des années 70, du début des années 70, alors mes balbutiements jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant. Ça fait combien d'œuvres peintes? Vous avez peint combien d'œuvres en tout?
Alors là, je veux dire, dans le livre, il y a 368 reproductions. Ouais. Sinon, j'ai dû peindre entre 5 et 10 000 œuvres.
Ah, entre 5 et 10 000 œuvres?
Oui, tout à fait, ouais. En comptant les papiers, les pastels, les esquisses, j'estime à peu près ça, mais c'est très très difficile de savoir exactement combien, qui circulent. Il y en a peut-être déjà 2000 qui sont dans des collections particulières, donc, et chez moi c'est bien entassé. Donc il a fallu, il a fallu que je quitte, j'ai peint beaucoup dans notre capitale, il a fallu que je la quitte parce que ça devenait trop petit, pour avoir cet espace magique dans le Nord Cotentin. Voilà. Je vous invite tous à venir me voir.
Eh bien, écoutez,
avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Pour aller vous retrouver, je rappelle votre site, Laurent Zunino, laurent-zunino.fr. Vous êtes peintre, vous avez écrit ce livre 50 ans, l'œuvre peinte, en rappelant que vous avez fait des milliers de tableaux. Donc vous nous avez dit que 2000 aujourd'hui sont dans des collections particulières, j'imagine, donc pas qu'en France, mais à travers le monde. Un tableau qui est dans une église, donc en Corse, ça il va falloir qu'on aille...
À vérifier, alors là, moi je ne l'ai pas vu personnellement, c'est mon mécène de l'époque qui n'est plus là pour me le certifier, et qui me l'a dit qu'il l'avait offert à l'évêché de Monticello.
De Monticello. Bon.
Monticello, c'est un petit village assez connu parce que les vedettes y habitent, notamment Jacques Dutronc et Michel Fugain.
D'accord.
Donc, c'est un petit village qui se trouve au sud de l'île Rousse.
Bon, ben on invitera Michel Fugain ou Jacques Dutronc. On leur posera la question.
On leur demandera.
Je pense qu'ils connaissent l'adresse de présence et que ils viendront nous voir. Alors, on leur lancera une petite invitation. On leur lance là. D'ailleurs, je suis persuadé qu'ils vont nous écouter, qu'ils vont nous appeler.
Bien sûr.
Et que
ils ont nos numéros privés.
Ils ont nos numéros privés. Donc voilà. Donc ils viendront nous voir. Bon, tout à fait. Laurent Zunino, merci beaucoup.
Ben c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une belle journée.
Et belle journée à vous aussi. Bonne continuation. Donc on rappelle. 50 ans, l'œuvre peinte, laurent-zunino.fr. Merci beaucoup, Laurent, et bonne journée.
Merci. Au revoir, merci à vous.
Merci.
Radio Présence.
Au revoir.
Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Bon, ben voilà Diego Arrabal, que l'on pouvait dire, des mots et
on est tout barbouillé de peinture, là, d'ailleurs.
On est tout barbouillé de peinture.
Voilà ce que c'est de poser les mains où il faut pas dans un atelier
et
de peintre.
Voilà. Mais quelqu'un que je connais, Laurent Zunino, un homme passionnant.
Radio Présence dans la vallée du Lot. 92.5 Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le
Audience générale, le pape a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'Omen Gentium. Il s'est penché sur la dimension hiérarchique dans la vie.